Voilà, c'est un morceau des Dream Slaves qui sont en direct dans les studios de Radio Canu pour l'émission Patch World. Alors, bienvenue à vous. Alors, ils sont trois, normalement, ils sont cinq dans le groupe.
Tout à fait.
Ah, c'est Peter qui prend la parole, pardon.
Oui. Il n'y a que ceux qui n'ont pas pu venir qui t'embrassent, Delphine.
Ah bah c'est gentil, plaisir de les rencontrer bientôt. Alors j'en profite pour une petite parenthèse. Patch World est une émission plutôt généraliste, hein, comme son nom l'indique, World, Patch, voilà. Et Patch World donc. Mais sinon il y a une émission qui s'appelle Noise Pollution, qui est aussi le vendredi soir, qui est vraiment spécialisée dans le métal. Et là je pense qu'il y aura vraiment un présentateur, animateur qui pourrait spécialiser ou parler. Là non, je vais vous demander des choses un peu plus générales. Tout à l'heure, pendant le morceau, Nils parlait de headbang, banger. Donc c'est secouer la tête en rythme.
Tout à fait.
Et de préférence avec des cheveux longs.
C'est mieux quand même.
Et donc là, sur ce premier album qui s'appelle Rest in Fantasy. Alors tout ce qui est anglais, aidez-moi s'il vous plaît.
Pas complètement. C'est ça, Rest in Fantasy, c'est impeccable.
Qui veut dire?
En fait, l'idée c'est de reposer dans la fantasy. C'est un petit peu un clin d'œil à Rest in Peace en fait.
Les initiales sont les mêmes d'ailleurs.
Voilà, R.I.P. Chacun peut y voir quelque chose de personnel. C'est aussi ce qu'on pourra aborder au niveau des textes, qu'on pourra aborder peut-être tout à l'heure. Voilà.
Très bien. Donc ça, c'était le sixième morceau. Voilà. Vous avez choisi ce morceau. Pourquoi en priorité, là, en premier ?
Eh bien, parce que c'est un morceau qu'on a voulu entre guillemets radio-ondable sur sa version courte. Voilà, c'est quelque chose qui nous représente dans le cadre où on est très influencé musicalement par la musique qu'on dit généralement classique, mais qui est classique, baroque et d'autres styles encore. Et du coup, c'est un morceau qui repose beaucoup là-dessus, avec des chœurs, une façon de composer de Cédric qui en parlera mieux que moi. voilà, c'est représentatif, je pense, de l'album en lui-même.
Ouais, tu veux dire Peter ?
On peut dire ça, ouais. Cédric, c'est Peter en fait.
Mais ça va être un peu difficile pour moi.
Concrètement, oui, ce morceau, c'est vrai qu'il est assez représentatif du groupe, comme le disent les critiques, à la fois dans les bons et les mauvais côtés, pour faire simple. Voilà, on vient de quelque part, c'est une évidence. Après, on a aussi une part d'identité qu'on souhaiterait développer à l'avenir et qu'on a déjà essayé de
Donc on m'avait dit tout à l'heure que vous aviez choisi ce titre parce qu'il était téléchargeable sur votre site, c'est ça ?
Tout à fait. Gratuitement. Alors sur SoundCloud.
Donc là c'est la version plus que vous avez fait brancher un truc que j'avais jamais fait, c'était connecter en direct votre télé,
votre que ça se fait maintenant.
Ordinateur, voilà. Donc vous êtes allé chercher directement. C'est un clip en plus, je vois, non ? Vous avez là.
Non, c'est pas un clip. Non, en fait, on est allé chercher pour tout à l'heure des morceaux sur YouTube. Et ce qui vient de passer là, c'est un morceau qui est sur SoundCloud.
D'accord.
Donc voilà, qui est téléchargeable gratuitement par tout le monde. Pas besoin d'être inscrit sur SoundCloud.
Donc en allant sur votre site Dreamslave.
Voilà. Alors sur notre site, ça renvoie directement sur SoundCloud. Donc vous pouvez aller sur notre site qui est www.dreamslave.net et là vous y trouverez beaucoup tous les extraits en fait de notre album plus bien d'autres choses qu'on détaillera tout à l'heure.
Ouais. Et donc pour parler de ce morceau, on disait il y avait les influences un peu du Lacrimosa, des Requiem de Mozart.
Voilà, c'est une évidence dans l'intro, les refrains, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est cet aspect, cet ancrage dans la musique classique qui est très émotionnel. Sans perdre de vue que en fait on fait du métal et que il y a des gros riffs, il y a de la double pédale, ça permet de secouer la tête, mais on perd pas de vue l'émotion, l'aspect humain de la musique, voilà ce qui fait vibrer quoi.
Donc on y reviendra tout à l'heure pour bien définir le style, mais là il y a dans le côté orchestral, donc il y a la partie chœur dans ce morceau.
Tout à fait.
Et on demandait justement, alors il y a une chanteuse, comment vous faites pour retrouver un chœur ? Vous y êtes pris en plusieurs fois, d'où vient ce chœur ?
D'où vient
des femmes, des hommes, il y avait un peu tout.
C'est ça, il y avait un vrai chœur de 15 personnes avec tous les pupitres, basse, baryton, ténor, alti et soprani. Voilà, c'était une grande expérience, un grand moment. On remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui ont bossé avec
nous. Un vrai moment humain avec des
gens qui sont. Vous l'avez trouvé où cette chorale ?
Ce sont des amis à qui on a proposé de le faire, des amis pour la plupart chanteurs.
Voilà. Et qui sont déjà une chorale en eux-mêmes ou c'est non, des non. différents
Certains,
ils sont rassemblés
non, non.
exprès pour
Ils sont rassemblés exprès pour. C'est vraiment créé pour l'album.
Et vous leur avez écrit la partition, vous avez fait d'oreille, vous avez marché comment
Peter,
ouais, qui a tout écrit. Les partoches sont écrites hein, chez Dreams Live, on travaille toujours sur partition. Mm-hmm. Là, pour le chœur, il y a à peu près un an, jour pour jour, que le chœur a été créé, donc en septembre 2014, et on a enregistré en novembre. Tout ça pour les 10 morceaux. Donc c'était une sacrée course contre la montre, en fait, et donc ces personnes-là, elles ont répondu présent, et on les remercie vraiment, et elles ont fait un super investissement, et c'était une sacrée expérience humaine. Voilà, donc le chœur a été créé spécialement pour, j'ai eu la grande chance de les diriger. La première fois de ma vie que je dirigeais un chœur, et on est tous sortis plus grands, et l'album, je pense, a pris ses lettres de noblesse grâce à ça.
Vous avez enregistré où, tiens, en parlant de...
On a enregistré dans un studio un peu perdu au fin fond de la Cambrousse, dans Berrieux, en Berrieux-en-Bugey, ça s'appelle le Noise Form, c'est pas très connu, on a travaillé avec aussi des personnes exceptionnelles. Thierry et Sylvain du groupe Dyslesia.
Des vrais professionnels.
Voilà, qui ont beaucoup tourné dans les années 2000, notamment avec Stratovarius ou Rhapsody. Voilà, donc des gens super. Voilà, aussi bien techniquement qu'humainement.
Ah, dans votre groupe, vous êtes deux à chanter, un homme et une femme.
Tout à fait.
Toi, Peter et Emma.
Voilà. Enfin, moi je suis plus dans le rôle de la bête hein. Je fais juste des apparitions, c'est Emma qui a
c'est moi qui tiens le chant principalement, oui.
On peut faire un petit tour de table histoire d'entendre aussi la voix de Nils rapidement, qui vous êtes, ce que vous faites.
Moi, je chante pas.
Nils, lui il gère l'ordinateur là aujourd'hui.
Non mais que tu parles, ce serait pas mal aussi.
C'est vrai. Ah oui, mais enfin, je vous laisse expliquer un peu quel est le fondement du groupe, parce que moi je suis avec Dreamslave depuis 2 mois maintenant. Donc c'est quand même quelque chose de très récent.
Et en fait, vous êtes tous originaires de Lyon
ou... Ah non.
Alors, on vit tous à Lyon, mais on n'est pas forcément originaire de Lyon, sens premier.
Vous êtes arrivé quand
Alors moi, je suis arrivée en début 2011 à Lyon. Donc, suite à quoi j'ai...
Donc l'aventure Dream s'élève, elle a commencé à ce moment-là, là, vous êtes rencontrés quand...
Oui, 6 mois après, enfin un petit peu plus de 6 mois, 6-8 mois, c'était pendant l'été 2011 où je les ai rencontrés.
C'est ça, oui.
Ah, tu venais de quelle région, Emma?
Je viens de Paris.
Ça te plaît, Lyon?
Oui.
Ouais, ça va.
Non, j'ai pas du tout envie de retourner à Paris. J'y étais encore hier et je me disais, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Voilà.
Bon, t'as trouvé l'endroit qui te convient.
Oui, oui, avec les gens aussi. Voilà, beaucoup d'amis maintenant sur Lyon. Enfin, un peu, mais des vrais.
Tu viens du classique en chant, non? T'as tout de suite dit c'est le métal que je veux faire, ou comment ça se passe?
Alors non, je viens pas du tout du classique. Je suis tombée dedans, je pense. Tout simplement, je pense que j'ai la voix peut-être pour en faire, puisque je sais que beaucoup de personnes me demandent aux sorties des scènes si j'ai fait le conservatoire, et effectivement non. Mais j'ai commencé à prendre des cours après une douzaine d'années en chantant toute seule. Et voilà, je pense que ça a beaucoup amélioré les choses et m'a permis de me sentir bien aussi sur scène pendant les concerts, et etc.
Donc spécialisée plutôt dans le métal alors ?
Spécialisée dans le métal, mais je viens du rock, même si ça ne s'entend pas. non, je suis assez éclectique en fait. Mais j'ai eu beaucoup de groupes avant Dreamslave, métal et rock pour la plupart.
On peut parler des absents aussi?
Ouais, bah du coup, il y a Quentin qui peut pas être là, le batteur, et Jean-Rémy, le bassiste. Donc bah du coup, bah ils vous saluent tous. Voilà, et puis on va dire que respectivement, bah Quentin, lui, a un cursus assez important en musique, hein, faut le dire. Il exerce aussi en tant que professeur, donc c'est quelqu'un qui a un sacré niveau, aussi bien théorique que pratique. On a eu la chance de le rencontrer en 2012. Voilà, il est venu vers nous pour succéder à Baptiste, qui à l'époque était au poste de batteur en tant que mercenaire. C'est comme ça qu'il aimait se définir.
Le soir d'un grand concert pour nous, en fait. Hein, voilà, on ouvrait pour Arkona. Ouais. Donc Arkona, groupe russe de métal assez connu dans le milieu. Et qui jouait à Lyon par l'intermédiaire d'une association très très efficace ici, donc a changé de nom depuis. Et du coup, ce soir-là, on a dit qu'on recherchait un batteur puisque c'était le dernier concert de bassiste, et on a rencontré Quentin.
Voilà. Donc du coup, Quentin concrètement nous a rejoint en 2012. C'est avec lui qu'on a fait l'album. Ça s'est très très bien passé. Et puis donc Jean-Rémy, lui, a un parcours un petit peu plus...
bassiste.
Oui, tout à fait, plus grand public, on va dire, un peu plus comme nous, dans une certaine mesure. On n'a pas forcément tous fait le conservatoire ou des grandes écoles ou des écoles privées. Mais voilà, il a eu d'autres expériences dans certains groupes de métal ou de rock. Voilà. Donc lui, nous a rejoint en fait en année 2012. À l'époque où le projet s'est formé, on n'était que deux. En l'occurrence, il y avait Mickaël et moi-même. On a cofondé le projet en mars 2011. Donc ça remonte un petit peu depuis Mickaël a quitté le projet. Et d'ailleurs, bon, c'est Nils que vous avez peu entendu, mais qui est juste en face de moi là, qui lui succède. On est très heureux. Voilà.
Ah, comment t'as découvert le groupe ? Donc ça fait juste un mois, Nils, que tu es dans le groupe.
Oui, un ou deux.
Et tu étais sur Lyon ou c'est parce que t'es arrivé sur Lyon que t'as rencontré ce groupe ?
Non, moi je suis sur Lyon depuis un petit moment, mais j'avais un groupe à Paris dans lequel j'ai laissé un assez gros pied depuis que je suis sur Lyon en 2007. C'est un groupe plus de trash. Donc, il m'a tenu 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je les salue d'ailleurs. C'est des grands copains. Et bon, je crois que c'était un peu l'occasion de passer à autre chose. Et donc, j'ai tout simplement regardé les annonces et j'ai vu que Dreamslave cherchait un guitariste. Je les avais vus justement au concert dont parlait Emma tout à l'heure, en 2012.
Le Elson State, oui.
Voilà, donc ça me parlait. Et donc, je suis allé les rencontrer. Ils m'ont fait passer à la moulinette et tout ça.
Audition et tout.
Et puis après, j'ai signé mon contrat avec mon salaire et tout, c'est super.
Voilà, ça s'est très bien passé.
Peter, toi, t'es l'origine du groupe, c'est ça donc.
Alors, j'aime pas trop définir les choses comme ça, parce que le projet a été cofondé, hein, comme je le disais, en mars 2011, entre Mickaël et moi-même. Mais c'est vrai que j'admets avoir une part assez importante dans le projet, dans la mesure où pour ce premier album et pour l'Extended Play qui le précédait, donc Extended Play sorti en 2012, de 5 titres, et puis bah, l'album Rest in Fantasy en 2015, en mai. C'est vrai que je partage un investissement important, donc on va dire que comme j'écris l'orchestre, une bonne partie des paroles et également de la musique du groupe, bah oui, c'est vrai que je suis assez impliqué. Après, un groupe, c'est un ensemble de personnes, hein, c'est pas quelqu'un tout seul derrière son bureau, hein, si on veut partager des choses, si on veut être humain, si on veut faire vivre cette musique ensemble. Voilà, c'est aussi ça, la musique, c'est partagé, que ce soit entre les musiciens ou avec d'autres personnes et le public. Voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je vois la musique, comme une expérience, un voyage. Quoi. Voilà.
Ouais, bon, propos de voyage, un deuxième morceau qui s'appelle Masquerade.
I came back from the land of light.
Alors, toujours avec Dreamslave en direct sur les ondes de Radio Canu dans Patchworld. Là, on vient d'écouter un autre morceau de leur dernier album. Je vous laisse vous présenter.
Bon, alors, je vais ouvrir.
Masquerade, Dreamslave.
Donc, Masquerade. Masquerade, c'est un morceau, je dirais, qui tire vers l'électro. Quelque part, des influences qui nous représentent aussi, qui représentent surtout peut-être son compositeur, qui a pas mal d'attrait pour cette musique-là. C'est aussi le mélange des deux voix grunt et puis plutôt claire, hein. Mais avec l'apparition sur ce morceau, pour moi, d'un chant très rock, donc qui représente plus... la partie de moi un peu plus ancienne dans laquelle j'étais sur des groupes comme vous entendrez dans mes influences donc du coup des groupes je vais citer Nirvana parce que j'en ai chanté aussi, je vais citer Muse, je vais citer Lacuna Coil, qui est pas rock, mais qui a une voix aussi claire et très peu lyrique. Voilà, ça fait partie de mes influences. Et c'est vrai que ce morceau reprend un petit peu tout ça. Et Peter connaît donc pas mal maintenant mes goûts et les possibilités de ma voix. Et je pense que c'est un morceau qui a pu naître grâce à ça.
C'est vrai, Masquerade, c'est un titre, on va dire, pour nous assez ancien, même si le groupe est très très jeune, puisqu'on a été formé en 2011, comme on l'a dit. Mais c'est un titre qui date donc de l'année 2012, hein, sur notre Extended Play qu'on a repris sur l'album Rest in Fantasy. Ce titre-là, en fait, à la base, je l'ai écrit parce que j'aimais beaucoup le film Blade. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, à l'époque, j'avais écrit la musique. Et puis, j'ai demandé à Mike, donc Michael, ex-guitariste, simplement de savoir s'il pouvait écrire quelque chose sur le thème vampirique assez contemporain, très moderne. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un dialogue un petit peu spécial, un peu sentimental, sexualisé, avec des choses un peu spéciales dans ce titre-là, même si c'est plus implicite qu'explicite. Mais du coup, là, on était dans un côté très vampirique, électro. C'est un titre voilà, très particulier, je dirais, mais il y a quelque chose d'assez Dreamslavien. Sinon, en terme d'influence, de manière globale, c'est vrai que le groupe navigue dans le métal orchestral, alors c'est un peu générique aussi, mais concrètement, on pourrait être qualifié de métal symphonique. Alors pourquoi Dreamslave c'est nommé métal orchestral? Parce qu'on trouve que c'est plus représentatif quand même de ce qu'on fait. C'est plus proche de la réalité dans le sens où on est accompagné d'un orchestre, on a des chœurs. Alors que le mot symphonique, ça, c'est réducteur. Voilà, souvent symphonique, c'est un orchestre, c'est quoi, on ne sait pas, est-ce que c'est philharmonique? C'est des termes un peu techniques, mais pour nous, voilà, c'est plus grand public, puis c'est représentatif de ce qu'on fait. Voilà, donc une grosse touche métal, des gros riffs, et un chant féminin mis à l'honneur, et puis un orchestre et des chœurs, voilà, pour faire simple.
Comment ça se passe pour la partie électro sur scène là?
Ben, je vais laisser
les sons un petit peu, comment ça se passe.
Peut-être en parler.
Moi, il va m'obliger à parler ce titre. moi, j'ai découvert un peu les choses parce que je ne jouais pas du tout avec ce genre de formation avant. Donc, tout ce qui est orchestral et qui évidemment ne peut pas être proposé sur scène parce qu'on ne vient pas avec 15 choristes et puis un orchestre.
250 personnes à peu près.
À chaque fois.
C'est léger, mais il faut pas ça.
Donc, surtout dans les salons où on joue, ça pourrait tenir.
Donc c'est des pistes qui sont envoyées derrière et les musiciens qui sont là jouent par-dessus.
Voilà, c'est ça. Donc ça exige quand même une sacrée rigueur de notre part, ce qui n'enlève rien à l'émotion, mais voilà, ça nous oblige à être très 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 précis, en fait, à la fois entre nous et puis surtout par rapport à l'orchestre.
Donc tout est millimétré, les pulsations, voilà. Les tempos.
Voilà, c'est ça.
C'est dépendant des samples, des tournes, des intros.
Voilà, comme ça se fait dans ces styles-là, par obligation, tout simplement par cohérence. Ou alors on doit proposer un live qui serait extrêmement épuré, peut-être intéressant, mais qui n'est pas notre souhait. Voilà, si on enlève les chœurs, l'orchestre.
Et en composition, tu travailles avec quel logiciel, quel synthé, des banques de sons, ça se passe comment?
Alors, je suis un peu éclectique dans les logiciels. J'en change assez régulièrement.
Tu fais des prises de son aussi ou c'est que des banques de son que tu vas récupérer à droite à gauche?
Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Pour l'album, on a enregistré violoniste et haute pour certaines parties. D'autres, c'est du logiciel. C'est une évidence. Mais du coup, en termes de logiciels, j'ai travaillé sur beaucoup de logiciels différents, que ce soit Cubase, Pro Tools ou Logic Pro, pour les plus aficionados, s'ils comprendront. Mais pour faire ça, je n'aime pas me restreindre à un seul logiciel ou deux. J'aime bien.
Et sur scène, alors c'est lequel que vous utilisez pour lancer les parties?
Alors, c'est Logic Pro qui nous sert en fait de cerveau, dans le sens où il centralise un peu les informations. Mais pour mes claviers, je travaille avec un Kétar Roland X-Synth. Donc voilà, je suis en clavier portatif à la Jean-Michel Jarre pour ceux qui connaissent. Mais dans le son, les banques de sons, j'aime bien en changer. Donc je pense que c'est important.
Et pour les sons de guitare, il y en a plusieurs. Il y a des guitares disto, il y a des effets. Ça se passe comment?
C'est que de la disto.
Du gros son bien bourrin.
On n'est pas là pour s'ennuyer.
Il y a justement de la disto. J'imagine qu'il y en a beaucoup dans les influences, dans les groupes que vous avez comme influence. On commence par toi, Peter. On avait organisé un petit tour de table de vos influences.
Et du coup, moi, j'aimerais vous faire partager un titre qui a vraiment marqué ma carrière de très, très jeune musicien. Modestement, c'est un titre de Deep Purple enregistré en 1970 à l'UK TV Show. Donc en Angleterre, c'est le titre Shining Time. Voilà.
Donc, influence de Peter.
In time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, bullets flying.
C'était un extrait de Child in Time de Deep Purple 1970. Donc c'est une de mes influences primordiales. Ça se reconnaît peut-être pas comme ça, mais c'était un titre qui a vraiment marqué la fin de mon adolescence. J'ai commencé la musique très très tard, à 16 ans. Et j'ai découvert beaucoup de choses en même temps, notamment par trois personnes que j'aimerais saluer aujourd'hui. Donc c'était Charlie qui à l'époque m'a fait découvrir Deep Purple. Il y a Nicolas qui m'a fait découvrir Nightwish. Et Bob, c'est anecdotique aussi, un chauffeur de car avec lequel j'avais bien sympathisé pendant 3 ans. On avait tissé des liens qui m'a fait découvrir Dire Straits, entre autres, mais pas que ça, des dizaines et des dizaines de groupes. Voilà, donc je viens de ce milieu-là. Avant, j'écoutais beaucoup, beaucoup de variétés, mais de la variété internationale aussi, comme Michael Jackson, Madonna. Et ça peut paraître aussi un peu loin, mais j'ai toujours des affinités avec le rap aussi, comme Sniper ou IAM. Voilà, donc je viens un peu de ce milieu-là. J'aime aussi beaucoup Renaud. Voilà, je passe la parole.
Tu viens de partout, en fait.
Voilà, c'est peut-être un peu ça. J'aime aussi bien Franz Liszt.
Bon, ça, c'est très patchwork dans tous les cas. C'est très
tu n'es nulle part.
Nils, tes influences, peut-être? Chacun son tour, un petit peu.
Peter parlait de Renaud. Moi, j'ai j'ai commencé à écouter de la musique avec Renaud, plus pour le côté gauchiste révolutionnaire que le côté musique, je pense. Et puis après, je suis tombé dans le métal relativement rapidement avec les classiques Metallica, Megadeth, etc. Et puis depuis, je suis plutôt resté dans ce monde-là tout en m'ouvrant. Ça s'est plutôt fait progressivement vers le jazz, vers le jazz manouche que j'aime beaucoup aussi parce que ça joue bien de la guitare.
Alors, Renaud, de passer de Renaud au métal, je sais pas, il y a peut-être des liens à faire. Morgane de Toi, version métal, j'imagine.
Mais Renaud, c'est quand même. Renaud, il y a quand même des accompagnements. Version métal. Ouais, il y a quand même des accompagnements qui étaient déjà très rock dans Renaud, avec beaucoup de basses bien lourdes. Enfin, je pense que le pas n'est pas si vaste à franchir que
non,
ça.
Non, il faut une guitare disto. Et...
Voilà, ah, je me connais pas beaucoup en métal, mais je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas les grandes voix là, comme on entend des fois en métal. J'ai joué dans un groupe. C'est quoi le terme exact?
C'est des voix gutturales, comme on appelle ça, donc du growl, plus pour ce qui est grave et plutôt du scream ou autre, pour ce qui est aigu. Alors, après, il y a plein de techniques différentes. Hein, chaque chanteuse ou chanteur de guttural a un peu ses méthodes ou ses
qualifications. Ça, il n'y a pas ça dans votre album, c'est des voix plutôt mélodiques
Alors ça dépend, si on a un petit peu, hein, comme je disais, je groule sur l'album, mais si on devait schématiser, on est plutôt à 75% de chant féminin, même plus, 80%. Et puis,
on pourra peut-être écouter un extrait de groule tout à l'heure ou sur un morceau,
oui,
sur
on entendra sur Pirate, on en a déjà un petit peu entendu sur Masculine.
On vous l'annoncera. Voilà. Alors les influences de Nils, on est dans Rage, c'est ça?
On est dans Rage, oui, donc ça c'est un groupe allemand. J'ai commencé à écouter assez jeune. J'ai prévu aussi un morceau qui est de 1998 parce que c'est là, c'est peut-être pour faire le lien aussi avec Dreamslave, c'est que c'est la première fois que je voyais un groupe qui est plutôt un groupe trash, donc jouer avec un orchestre symphonique. Et ça m'a mis une belle claque à l'époque, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, c'est un groupe que je suis depuis, qui existe encore.
Je découvre, je connaissais pas. Les Dreamslave font écouter cette fois leurs influences musicales. Et c'est Taïma.
Donc, alors moi je vais vous parler d'un morceau de Muse que j'ai cité tout à l'heure. Pourquoi Muse? Parce que c'est une des premières voix à tendance lyrique mais masculine qui m'a vraiment touchée.
Ça, c'est pas Muse. Hein.
Ça repart. Non.
Ça nous amuse, mais c'est pas Muse. Ça, par contre, hein.
Tu saurais faire une voix gutturale comme ça, a cappella. Hein.
Comme ça, a cappella, un petit peu.
Là, c'est plutôt Garou un peu en vrai, mais.
On y va, allez, un petit. Ouais.
Donc je disais Muse. Alors Muse aussi, on entend le piano, et le piano c'est le début de ma vie musicale, puisque j'ai fait 8 ans de piano avant de faire du chant, que j'ai abandonné petit à petit, que j'aimerais bien reprendre au profit du chant justement. Donc voilà, ça me marque parce que c'est un des premiers morceaux que j'ai chanté et joué en même temps. Quelque chose qui est pas trop difficile quand on a un petit niveau. Et du coup, voilà, c'est un morceau qui me met la chair de poule quand j'entends et que j'aime beaucoup.
Enchaîne avec une autre influence.
Voilà, bah, du coup, plein de trucs. Moi, pour une anecdote, en fait, j'ai commencé la musique à la guitare. En fait, c'est surprenant pour un claviériste. Mais du coup, c'est aussi une explication du fait que maintenant je travaille sur un Kétar, donc un clavier portatif. Voilà, donc la deuxième influence pour laquelle j'aimerais vous la faire partager, c'est du Dire Straits. Donc c'est un live encore. Pourquoi un live? Bah parce que je trouve que la musique elle vit mieux en concert peut-être que sur album. Voilà, il y a un autre feeling, une autre émotion, il y a plus d'énergie, une énergie différente, je sais pas. C'est un live donc de Dire Straits, voilà, donc live de 1986, enregistré à la Hammersmith Apollo, donc grande salle de Londres, là où Mark Knopfler était à son top.
Avec sa veste rouge.
Voilà, assez surprenant dans les années 80 quand même, parce que à l'époque c'était vraiment grosse guitare distorsion, et lui il était en guitare clean, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que ça a un charme particulier, fou peut-être. Voilà, je suis très sensible à ça aussi. Voilà. C'était une toute petite partie de Sultan Swing de Dire Straits 1986, Alchemy Live, voilà.
Avec un long prélude, c'est ça.
Voilà, donc c'est un très très grand interlude qui mène au solo final à la guitare, qui a normalement un album fait 4 minutes, là, le titre en fait 10. Voilà, donc on va pas tout
diffuser. Continue dans les influences de Nils. Et qui va nous présenter cette fois, c'est du symphonique.
C'est du symphonique, ça s'appelle.
C'est le nom du groupe.
C'est le nom du groupe. C'est un groupe que moi j'ai découvert. En plus, ça me tient à cœur parce que j'ai découvert ça en classe préparatoire quand j'avais qu'une chose à faire, c'est de faire des maths et de la physique. J'étais tout malheureux dans mon trou là. Et ça, pour le coup, je crois que c'est le groupe qui m'a le plus impressionné.
Où tu faisais tes études à Lyon?
Pour l'instant, à Thiers, c'est encore pire.
C'est près de Clermont-Ferrand, ça.
Thiers, c'est entre Clermont et Lyon, c'est là où on fabriquait tous les couteaux. Avant.
Oui.
Et où aujourd'hui, bah, malheureusement, comme il n'y a plus de coutellerie, il n'y a presque plus personne qui a envie d'habiter là-bas, il y a plein de problèmes et c'est un peu mort.
Donc toi, tu es originaire de là-bas ou c'était juste
pour
les études?
Je suis originaire de Clermont-Ferrand à moitié et d'Islande à moitié.
C'est assez original, oui.
Voilà. Donc Symphonique, j'ai découvert ça quand j'étais en classe préparatoire et depuis je me précipite sur tous les albums, il y en a un qui vient de sortir d'ailleurs là. Et ça fait ça. We'll be right back.
on disait, on a synthé plus guitare.
Bah exactement comme chez nous.
Hein. Voilà, c'est ça.
Synthé, guitare, batterie.
C'est virtuose.
Ils sont
alors symphoniques, en fait, c'est pas des musiciens, quoi. Voilà.
C'est, c'est des robots.
Voilà, c'est des.
On pense que ce sont des robots, mais
ils viennent probablement d'une autre galaxie. Hein.
Double pédale, faut tenir aussi ça.
Ça va de soi.
Hein ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un double pédalier.
Voilà, c'est ça. Soit une double pédale, soit deux grosses caisses avec deux pédales simples pour les gens un peu plus techniques, voilà. Évidemment, dans le métal, ça se fait bien, mais il n'y a pas que dans ces styles-là, hein, le rock, le jazz et autres. D'ailleurs, ça vient du jazz à la base, hein, cette technique-là, mais c'est très emprunté.
Donc, symphonique, c'est un groupe qui vient d'où ?
C'est des Américains.
Ouais, des États-Unis.
De cette génération ?
De cette génération, ça dépend de ce qu'on appelle génération, parce qu'on n'a pas tout à fait.
Ils ont commencé en 90, à peu près, symphonique.
Oui. Donc, cet album-là, enfin, ce morceau qu'on écoute, c'est quand il est ?
Ça, c'est un album de 2011. Solo de guitare.
Écoutez, ça y est, j'étais partie. J'admire la virtuosité, les changements de mesure, binaire, ternaire. Tiens, on n'avait pas parlé des gammes. Tu avais parlé, je te demandais, dans Dreamslave, il y a des influences, tu disais, de mode byzantin.
Alors oui, notamment sur un titre qui s'appelle Wishes of Revenge, qui était coécrit par Michael et moi. Donc on va dire globalement, c'est une touche orientale ou orientalisante un petit peu. Voilà. C'est des gammes qu'on aime beaucoup utiliser.
Écouter un extrait.
Alors, c'était pas prévu, mais pourquoi pas.
Je fais une
petite parenthèse.
Dans Patchwork.
Oh yeah. Je m'essaye. Ah, je disais, j'aimais beaucoup ces influences un peu légèrement orientales, mais en fait, tu dis mode byzantin, c'est pas oriental, c'est ça?
Alors, on va dire que c'est une pensée un petit peu occidentale de la musique orientale, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas de la musique pensée comme des professionnels de la musique, je ne sais pas, pourraient le faire dans les pays appropriés.
Mais aussi pour ne pas choquer l'oreille occidentale.
Bah, on va dire que oui, nous, on aurait du mal déjà avec nos instruments à jouer leur musique, parce qu'ils ont quand même des quarts de ton, des comas très particuliers entre les notes. Nous, on peut que essayer de s'en approcher. Voilà, on y tend, mais on n'y est pas. C'est un petit peu un équilibre à garder entre nos habitudes et notre manière d'entendre les choses. Et puis aussi cette découverte de plein de choses différentes, un petit peu dissonantes, un peu plus tendues. On a l'impression qu'on est en mineur, mais en fait, on joue en majeur. C'est très particulier. C'est à la fois très doux et en même temps très piquant. C'est un peu un salé sucré, je ne sais pas comment dire.
Ah ben voilà, ben c'est exactement les simitations qui m'intéressent, qui m'aiment. Ça n'intéresse pas si. Do, alors, do, ré, bémol, mi, la gamme.
Alors, do, ré bémol, mi, fa, sol, la bémol et si. Après, bah, vous décalez voilà. Ça sur n'importe quel tonal, ben, ça marchera très bien.
Je vais là-dessus, vous improvisez. Et après, on vous embauche dans du Dreamslave, version acoustique. Et on continue avec peut-être une dernière influence, Emma. C'est...
Avec une dernière influence, je dirais qu'il y a une de mes principales influences, puisque c'est celle qui m'a amené à faire du chant comme je le pratique dans Dreamslave, donc avec des tendances lyriques, puisqu'on va pas dire chant lyrique. Et cette influence, c'est Within Temptation, et un morceau qui s'appelle Ice Queen. C'est le premier morceau que j'ai entendu de métal symphonique à l'époque, et ça a fait tilt, et ça me dit je veux faire ça, tout simplement.
C'est une vraie influence, alors.
Une vraie influence.
Un déclic.
Tout à fait.
Voir un coup de foudre, alors.
Ouais, c'est un coup de foudre, exactement. Mes frères qui m'ont supporté ça pendant des années. Voilà, c'est la première, le premier morceau que j'ai commencé à chanter. Merci beaucoup de ne pas m'avoir trop hurlé dessus.
Bon, d'ailleurs, on remercie, je pense qu'on remercie tous nos familles, nos amis et tous les fans qui nous suivent, je veux dire, parce que voilà.
Tous les parents qui ont eu les groupes dans leur garage.
Ah oui, voilà. Aussi.
On n'en serait pas là sinon, quoi. Aussi.
Okay, j'ai une dernière question pour nous. Il a dit une information intrigante, que tu avais des origines islandaises. Est-ce que tu as des influences de groupes islandais aussi, peut-être?
Mais le problème, c'est que les Islandais, ils sont à peu près 370 000 sur Terre. Et donc, ils produisent pas énormément de...
De métal orchestral
Non.
Parce que, ils n'ont pas de voix gutturale.
Du coup, à part Björk et Sigur Rós, qui sont les groupes qu'on connaît jusqu'ici, il n'y a quand même pas énormément de choses qui s'exportent. Mais ils ont de l'énergie aussi.
Oui, il en faut.
Pour, voilà, pour arriver à supporter ce froid et cette nuit.
Et Emma, donc, est-ce que tu connais le nom de la chanteuse
ah oui, de ce groupe? C'est une de mes idoles, donc c'est Sharon Van Etten.
Ah bah voilà, donc c'est du groupe Within Temptation.
C'est ça.
Allez, puisque vous êtes là pour présenter votre album que vous venez de sortir, qui s'appelle
Rest in Fantasy.
Eh bien, je vous propose
le titre Pirate and Dam, donc un hymne aux pirates, mais plus que ça, un hymne à l'espoir, à la créativité. Qui est ceci? Voilà, exactement.
Si un bateau, c'est bon.
Voilà, c'est ça. Donc, vous entendez le titre Pirate and Dam, donc extrait de l'album Rest in Fantasy. Donc, du coup, moi, je voulais vous parler un petit peu des influences au niveau de l'écriture des paroles. Donc, sur ce premier album, il y a une grande collaboration avec Michael, qui a écrit plus de la moitié des textes et j'ai écrit le reste. Donc, Michael a une approche très très prolifique et très créatif. Et lui, son approche, elle est assez narrative. Quelque chose d'assez explicite. Mon approche, elle est un petit peu plus introvertie, un peu plus dans le sentiment. Je suis un peu moins narratif, mais globalement, voilà. Michael ne fait plus partie du projet actuellement, mais on a pour ambition de continuer cette collaboration. On verra ce qui se passera sur le deuxième album. Mais voilà, les thèmes, ils sont très très divers. Voilà, plutôt dans une approche fantaisiste. Mais globalement, on parle de ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire l'émotion. On parle de l'amour, de la haine, de la trahison, de l'espoir, de la fantaisie, du rêve. Voilà, on s'appelle Dream Slave quand même, donc faut le rappeler.
Patchworld, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais heureuse de vous recevoir. Donc les Dream Slave, trois membres du groupe sont venus en direct nous parler de leur album qui vient de sortir. Je vous laisse passer quelques infos rapidement sur le site, etc.
Eh bien, sur le site, donc nous l'avons dit tout à l'heure, vous pouvez nous retrouver sur notre tout nouveau site, tout beau, tout neuf, sur www.dreamslave.net. Voilà, vous y retrouverez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des morceaux, des extraits de l'album, des photos, plein de photos,
des vidéos, des
chroniques également sur les albums.
La boutique aussi qui est en ligne d'ailleurs.
Notre boutique, oui, vous pouvez aller y faire un tour, il y a plein de belles choses, dont les t-shirts à l'image de l'album. Quoi dire d'autre?
Et éventuellement quelques concerts à venir.
Eh oui, quelques concerts. Donc, concerts à venir donc, à Aix-en-Provence prochainement.
Tout à fait. Aux côtés du groupe Nereids qui nous invite. Donc à Aix-en-Provence au Corrigan. Voilà. Vous pouvez nous retrouver le 23 octobre.
Et puis d'autres concerts un peu plus dans le nord de la France, vers Metz.
Et voilà, donc on remonte un petit peu. Là, pour l'instant, il n'est pas officiellement annoncé. Mais voilà, on va venir vous voir dans l'Est. Si vous ne nous avez jamais vus, c'est le moment. Et on a autre chose à vous annoncer. Je vais laisser la parole à Nils rapidement.
C'est juste pour dire que si jamais ça se concrétise, et c'est en bonne voie pour l'instant, on va faire un petit tour dans quelques pays autour de la France.
Voilà.
En début d'année 2016.
On fera coucou à nos amis européens, probablement. En tout cas, on était... très heureux d'être là ce soir.
Merci à vous les Dream Slave.
Merci à toi
Dream Slave, qui veut dire ?
Qui veut dire que il n'y a pas vraiment de signification.
Que le rêve qu'on rêve est esclave, c'est ça ?
Voilà,
ce rêve c'est esclave.
Avant tout, c'est beau à l'oreille, c'est beau visuellement.
Il ne
doit pas forcément y avoir un sens à toute chose. Il faut que chacun puisse y trouver son propre sens.
Merci à toi Delphine de nous avoir reçus.
Vous avez dit ça passait vite une heure.
Une belle rencontre.
Oui.
On le mange ce gâteau maintenant.
Merci.
Bon anniversaire Emma.
On va les partager le gâteau.
Bon week-end à tous. Alors, je vous redis, le duo des Gavroches, si vous voulez voir chansons françaises, vous pouvez les contacter, duodesgavroches@gmail.com. Sinon, il y a des chances que vous les croisiez dans les rues.
C'est possible.
De Lyon. Et puis donc, compagnie La Poursuite avec le soutien de la compagnie Parlons-en, l'Algérie, le soleil et l'obscur du 7 au 11 octobre à l'espace 44. C'est 44 rue Burdeau. Et donc, c'est de Madeleine Choma. En pleine bataille d'Alger, Madeleine Choma, venue très jeune travailler en Algérie, tape des tracts pour les insurgés. Elle est arrêtée en 1957, emmenée à la villa Cessini et torturée, etc. Donc une grande histoire sur l'Algérie, le soleil et l'obscur aux éditions La Rumeur Libre 2015. Voilà, et c'est donc la compagnie La Poursuite à l'espace 44. Voilà, merci de m'avoir passé ces informations. À chaque fois, je rencontre des gens, me donnent leurs informations. Et puis, dès que vous en avez d'autres, n'hésitez pas, les Dream Slave ou même vos amis autour
c'est
de...
cool.
Voilà, donc toutes les infos de Dream Slave à suivre sur leur site. tout de suite, c'est On n'est pas des cadeaux. Merci d'avoir écouté.
Merci.
Patchworld. Et n'oubliez pas, ventre affamé, n'a point d'oreille.